m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est l'histoire d'une femme prénommée Elisa, et peut-être connaissez-vous une Elisa ou une Solange, une Fatoumata ou une Sally, que sais-je, qui vit le même enfer qu'elle. L'enfer des violences conjugales, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et qui garde tout pour elle. C'est l'histoire d'une femme, donc, et l'histoire de tant de femmes, puisqu'il est aussi question de vieillesse, de tyrannie de la beauté, du culte de l'apparence physique, de la violence des réseaux sociaux, mais aussi d'amitié féminine, de sororité et de solidarité. Car si le livre est l'histoire d'une femme, c'est aussi un récit choral, car autour d'Elisa gravit toute une galaxie de personnages féminins qui ignorent les souffrances quotidiennes qu'elle encaisse. Et à la fin de plusieurs chapitres, retentit, en plein milieu de la nuit, un singulier appel téléphonique. On n'en saura la raison qu'à la fin. La femme que nous sommes, le premier roman d'Emma de Ruchy, est paru chez Flammarion, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Emma de Ruchy.
Bonjour.
C'est par une lettre retranscrite en italique dans le texte du roman, que le lecteur entre dans le livre. Nous sommes à la page 9.
Marc, je t'ai menti. Il n'y a jamais eu de dégâts des eaux au cabinet. C'était simplement l'excuse dont j'avais besoin pour justifier la fermeture. Un flot de questions doit t'assaillir, alors je préfère te prévenir. La lecture de mes explications risque de te prendre du temps et de t'ébranler. Quand tu auras pris connaissance de cette lettre, tu pourras annuler mes rendez-vous de la semaine. Nous n'échapperons pas aux mécontents, mais je suis sûre que la plupart des patients me pardonneront en apprenant que tu t'occuperas personnellement de la prochaine séance. Je t'encourage à prendre grand soin de ma patiente Eugénie Marteau, qui, je crois, en pince un peu pour toi, mais restons déontologiques. Marc, je suis partie de chez moi pour de bon. Si je suis partie, c'est parce que je n'avais plus le choix. Tu ne dois pas comprendre ce dont je parle, mais ça va venir très vite. Sers-toi peut-être un café, mon ami. Je suis par avance désolée que ça tombe sur toi. Tu étais le seul sur qui je pouvais faire peser ça. C'est un lourd fardeau, mais tu as toujours été la personne la plus fiable que je connaisse. Maintenant, ouvre ton tiroir de gauche, s'il te plaît.
Alors, qu'est-ce que Marc va trouver dans le tiroir de gauche ? Il faudra attendre la fin du livre pour le savoir. Emma de Ruchy, pourquoi avez-vous voulu commencer ce roman par cette lettre ? C'est toujours important de commencer un roman, a fortiori un premier roman. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix-là ?
Ce choix-là, c'était surtout pour que ce soit Elisa la première voix qu'on entende, parce que Elisa, elle est très effacée tout au long du roman. Elle prend plus de place au fur et à mesure des pages, mais je voulais vraiment que ce livre, qui parle principalement d'elle, bien sûr d'autres personnages, mais principalement d'elle, commence avec sa voix et son ton.
Et donc, il y a déjà le personnage d'Elisa, et puis il y a déjà le suspense que vous installez, oui. Là, en quelques phrases. On sait donc qu'Elisa est partie, qu'elle a quitté son travail avec Marc, on comprendra très vite qu'elle est kinésithérapeute, donc ils partagent le même cabinet. Elle a donc abandonné ce collègue, Marc, et abandonné ses patients. Marc découvre donc le contenu de cette lettre que nous venons d'entendre, et petit à petit, on découvre aussi par petites touches le drame que vit Elisa depuis plusieurs mois, un drame tristement banal, hein, puisqu'en France, on estime à 213 000 par an le nombre de femmes victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Pourquoi est-ce que vous avez fait de cette question des violences faites aux femmes, comme on dit, le thème central de votre premier roman ?
Elisa, c'était un personnage qui m'habitait depuis longtemps. J'avais cette histoire en tête sous forme de nouvelle depuis un moment. Elle vivait ça. Alors pourquoi j'ai voulu parler des violences conjugales ? Bah, parce que ça nous entoure, parce que c'est partout, ça touche tout milieu. Et c'est difficile de savoir ce qui lance l'élan de parler de quelque chose en particulier. Je pense que voilà, je suis quelqu'un qui vit dans cette société, qui voit ce qui se passe autour d'elle et qui forcément, c'est des sujets qui me bouleversent. Donc je parle de choses qui me bouleversent, qui m'interpellent, qui me bousculent un peu comme ça. Et en tant que femme, forcément, ce sont des sujets qui me bousculent. Mais je pense que ça bouscule aussi beaucoup d'hommes.
Oui, un sujet qui concerne effectivement tous les milieux, puisque là, on est clairement dans un milieu favorisé, parce que le compagnon d'Elisa, il est chirurgien, il s'appelle Loïc, il est chirurgien orthopédique, il gagne beaucoup d'argent, donc extérieurement parlant, et sur le papier, elle a tout pour être heureuse finalement, Elisa.
Bah, ils ont coché toutes les cases de la réussite, en tout cas sociale. Voilà, même elle est très aisée, elle vient d'un milieu relativement bourgeois, même si, bon, on le verra pour sa sœur, le destin n'a pas été identique en termes d'aisance financière. Mais oui, elle, en tout cas... Tout semble très bien aller pour elle.
Alors, petit à petit, vous mettez quand même sous les yeux des lecteurs ce mécanisme de la violence physique et psychologique. Hein. Vous le faites vraiment par petites touches. Hein. À une exception près, il n'y a pas de grande scène de violence. Pourquoi est-ce que vous avez préféré procéder ainsi? Il faut presque les chercher dans le texte, finalement, les informations qui montrent ce qu'est la réalité cachée de la vie d'Elisa.
Parce que je voulais que ce personnage d'Elisa soit au début un peu invisible. On l'oublie presque parce que les autres femmes que je développe ont des problématiques, elles aussi, qui sont très fortes. On entend leur voix avec beaucoup de fracas, beaucoup de force. On s'attache, on les déteste, peu importe. Mais en tout cas, on oublie souvent Elisa à travers les histoires de ces autres femmes. Et en fait... Ce ton pris avec Elisa, c'était pour dire qu'elle aussi, de toute façon, elle se sent invisible. Elle non plus, elle en parle pas autour d'elle. Là, elle a décidé de partir, donc elle a pris une décision, donc ça commence à émerger. Mais en tout cas, elle se sent invisible, elle ne se sent pas vue et elle s'efface.
Oui, le silence était devenu une habitude, une part d'elle, c'est ce que vous écrivez. Elle l'a choisi, ce silence, ou sans s'en rendre compte, elle se l'est imposé?
Oh non, mais je pense qu'elle l'a pas choisi. En fait, là, elle pose la question qui pour m'entendre, surtout. Je pense que c'est ça aussi son choix de partir, c'est de se dire elle a confiance en personne. Elle a pas confiance dans les institutions pour la protéger. Elle le dit à un moment, bon, sans trop raconter le livre, mais elle le dit. En fait, si jamais elle va porter plainte et s'il la remet devant son bourreau, lui, elle sait ce qu'il est capable de faire. Et donc, en fait, c'est pas tant qu'elle... Oui, c'est un silence imposé, parce qu'elle ne sait pas qui va l'écouter et qui va l'aider.
Mais ça surprend encore beaucoup de gens aujourd'hui, Emma de Ruchy, cette mécanique du silence qui s'impose chez les victimes, puisque ce sont des victimes, elles ne sont coupables de rien, elles n'ont pas à avoir honte. Pourquoi est-ce qu'elle a encaissé au lieu de se rebeller, au lieu de se porter plainte, ou tout simplement, au lieu de quitter cet homme?
Elle est complètement sous emprise. Je pense qu'au début, elle se sent complètement responsable. D'ailleurs, on le voit à travers ce personnage, elle n'a pas du tout confiance en elle. Il la rabaisse tout le temps, physiquement, moralement, elle est rien. Et il lui fait toujours sentir qu'elle n'est rien. Et elle a embrassé cette vision d'elle-même. C'est une femme sous emprise avec un homme qui l'a rendue complètement enfermée, emprisonnée. C'est très délicat, les mécanismes d'emprise, déjà, de s'en rendre compte, de s'en sortir. Et une fois même qu'on en a pris conscience, comment s'en sortir si la personne représente un danger pour nous?
Oui, en plus, elle est vraiment sous contrôle aussi. C'est-à-dire qu'il la surveille. Alors, ça passe par des choses très, 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 très concrètes. Par exemple, le kilométrage de la voiture. Donc, ouais, ça, voilà. Il va vérifier le compteur pour voir éventuellement s'il n'y a pas des déplacements un peu suspects. Ce Loïc-là, c'est d'abord la jalousie qui est le moteur de son comportement vis-à-vis de sa femme?
Non, parce que je trouve que ce serait presque lui donner une excuse, en fait. Loïc, c'est un personnage, je veux pas lui trouver ni d'excuses ni d'explications. Lui, son vécu, son ressenti, pour être comme ça, eh bien, il doit forcément en avoir un. En tout cas, là, c'est pas tant de la jalousie, c'est plus qu'il considère sa femme comme un objet, comme sa chose, c'est sa propriété. Il considère qu'elle n'a pas à avoir une vie en dehors de lui. Elle n'est que l'extension de lui et il choisit ce qu'elle est, ce qu'elle doit devenir.
Et finalement, sa femme, Elisa, est rentrée aussi un peu dans son jeu, puisqu'il a réussi à la culpabiliser, quoi. C'est quand même extraordinaire.
Totalement. Elle culpabilise pour tout. Elle a l'impression d'être une mauvaise mère, d'être une mauvaise personne, de pas être forcément là pour ses amis parce qu'elle a pas le temps. J'allais dire quelque chose sur le livre, donc non.
Mais donc ça, c'est son état d'esprit depuis des mois et des mois et des mois. Et pourtant... Ouais. Elle décide subitement de partir. Subitement, déjà, il y a un déclic.
Je pense que le chemin se fait progressivement, même de façon inconsciente dans son esprit à Elisa. Et puis, à un moment, c'est un peu trop pour elle. Et en fait, elle voit sa fille et elle se dit, en fait, je peux pas la laisser grandir là-dedans. Donc, en fait, sa fille lui donne un sursaut comme ça, en se disant, elle est encore jeune et peut-être qu'elle n'est pas encore cassée par ça. Peut-être que je peux la sauver.
Donc c'est pas pour elle qu'elle part.
Non, parce qu'elle se considère pas assez, presque, tellement il a réussi à la détruire, à lui faire sentir qu'elle n'était rien. Elle se considère pas assez, en fait elle le fait pour quelqu'un d'autre.
T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Le cœur et ne laisse jamais personne te faire croire
extrait du nouvel album de Clara Luciani dans VMDN sur RFI avec Emma Derucci pour son premier roman La femme que nous sommes chez Flammarion. Et si Elisa reste le personnage principal du livre, ce roman est un roman choral, on le disait, avec toute une galerie de personnages et notamment de personnages féminins qui ignorent les souffrances d'Elisa au quotidien, même si souvent elles sont parfois proches, voire très proches d'elle. À commencer par Eugénie Marteau. Hein. Alors on entendait son nom déjà dans la lettre hein, au tout début de l'émission. Eugénie Marteau, c'est la patiente préférée d'Elisa. Et d'un bout à l'autre du roman, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est attachante quand même, cette Eugénie. C'est un peu la grand-mère idéale, non?
Oui, c'est la grand-mère idéale, c'est la grand-mère qui a un petit peu un hommage à la mienne, à qui d'ailleurs j'ai dédicacé le roman, que j'aimais énormément et que j'ai perdu en 2018. Et voilà, c'est cette grand-mère un peu, cette vision de la grand-mère un peu cristallisée comme ça, qu'on admire, qui détient une sagesse, qui a vécu sa vie et qui n'en a pas tiré beaucoup de rancœur ni d'aigreur et... Qui a passé les années comme ça en devenant la meilleure version d'elle-même.
Oui, parce qu'elle souffre, dans son corps.
Dans hein, sa
c'est
chair,
pour ça
ouais.
qu'elle va d'ailleurs chez la kiné Elisa. Et malgré cette souffrance-là, eh bien, elle reste extrêmement positive. Qu'on a l'impression que toutes les petites difficultés de la vie, elle parvient à les surmonter. Elle regarde devant elle.
Oui, elle a cette vision des choses. En fait, elle s'est délestée de beaucoup de poids au fil des années et elle est arrivée à une sorte de paix intérieure avec l'âge, passé ses 80 ans. Elle se sent plus en paix avec elle-même, peut-être pas avec le monde, mais en tout cas, elle a une très forte volonté de transmission. Elle veut que Jeanne, sa petite fille qui traverse des déboires et des problématiques qui lui échappent un peu d'ailleurs à Eugénie, elle veut lui transmettre en fait cette possibilité d'être en paix.
Voilà, et elle est généreuse en plus, Eugénie, puisqu'elle va apporter son aide à la clocharde qui s'est installée à quelques encablures du cabinet de sa kiné. Quand elle va à son rendez-vous, elle passe devant elle. Cette SDF s'appelle Lenita et elle vit dans la rue avec un chien qui s'appelle Doggy. Nous sommes à la page 103 du roman.
Les gens souriaient au chien. Punaise, au chien! Mais bon, son Doggy au moins, il avait de l'amour à revendre et du mépris, aucun. Elle aurait voulu un chat aussi, mais ce n'était pas sérieux. Un chat, c'était du sauvage, de la liberté. Pas une liberté de rue, une liberté de vivre. Les chats vivaient comme ils l'entendaient, enfin souvent. On croisait des chats sans âme pour qui la vie avait été, comme pour elle, une succession de merdes. Mais cela aussi gardait une forme de classe. Doggy, c'était l'amour, la joie. Le chat, c'était l'air, l'émancipation. Elle l'appellerait Cato. Ce serait drôle de crier à la cantonade « Hé, le Cato, je t'ai déjà dit de pas te lécher le cul devant tout le monde !» Ouais, c'était nul. Mais c'était ça aussi, la solitude. On ne pouvait pas se tromper sur soi quand on se regardait bien en face des heures, des jours, des années durant. Lenita avait conscience de pas être une bête de génie et pas forcément une fille bien. Elle était mauvaise des fois. Et alors, faudra en plus qu'elle soit sympa ? Ça, c'était à mourir de rire, pour le coup. Après avoir dégourdi ses jambes, elle s'assit sur un banc et se grilla une clope. Elle regardait les gens passer et les interpellait.
« Pou, pardon, monsieur, mais le cul que t'as, c'est un gros délire !»«
Quoi ? La dame veut ma photo ? T'aimerais avoir la même coupe ? 1 euro et je te fais le tout sans la couleur !»« Alors, les amoureux, on serait pas dans l'union libre et tous ces trucs-là que je m'incruste ?»«
Toi, fais au moins un sourire !»
Elle voulait les faire chier. Qu'il la regarde un minimum, qu'on voit ce que vivent les gens comme elle, qu'on la regarde, merde. Des fois, elle se demandait qui se rappellerait d'elle quand elle mourrait. Mais mourir alors qu'elle avait Doggy, c'était hors de question. Ça, ils pourraient faire ce qu'ils veulent, c'était non. On ne l'aurait pas. Mourir, ça aurait été trop simple. Les pouvoirs publics la transformeraient en chiffres et son souvenir disparaîtrait pendant que Doggy serait emmené à la SPA et peut-être piqué là-bas parce que personne ne voudrait d'un ancien chien de SDF.
Comment le personnage de Lenita est-il arrivé sous votre plume, Emma Derucci ?
Alors à la base, c'est un des premiers personnages que j'ai développé. En fait, j'avais cette nouvelle autour d'Elisa et en fait, c'était le premier personnage avec qui elle échangeait. Et c'était presque une histoire entre Elisa et Lenita que j'avais écrit au tout début, avant de m'intéresser au regard de toutes les autres femmes qui étaient dans la vie d'Elisa et de les développer et d'en faire ce roman. Et donc, ce personnage est arrivé au tout début, pour être tout à fait honnête. Je passais à Bastille et j'ai croisé comme ça une SDF qui interpellait les gens comme ça, avec des petites phrases un petit peu provocatrices. Mais et je me suis tournée vers elle et elle était d'une jeunesse qui m'a interpellée. Je me suis dit, bah, elle est plus jeune que moi, et à l'époque, j'avais 24 ans. Et ça m'avait beaucoup interpellée, et je me suis demandé, mais quel est son parcours, quel est son chemin à cette femme pour qu'à 20 ans elle soit dans cette situation-là.
Et vous avez entamé le dialogue avec elle, vous avez discuté avec elle?
Non, bah je lui ai dit bonjour, elle m'a dit bonjour et voilà, on est passé. Et après, je ne l'ai plus jamais revue. Et elle est restée dans ma tête. En fait, au tout début, juste son âge m'a interpellée. Et après, je suis partie, faire ma vie. On s'était dit bonjour et puis. Le soir, j'y repensais, je sais pas pourquoi, et à chaque fois que je repasse à Bastille, à cet endroit, je pense à elle.
Mais comment s'est faite la connexion entre elle, entre Lenita, donc et Elisa? C'est pas évident.
Bah parce que c'est des personnages qu'on croise tous les jours, donc en fait, Lenita, elle fait partie de nos quotidiens finalement. Des femmes dans la rue, il y en a. Alors elles sont pas tout à fait visibles parce que c'est vrai que dans l'espace public, elles sont un peu invisibilisées. Il y a beaucoup de dangers pour elles dans la rue aussi.
Il y en a énormément.
Et il y en a énormément. Et c'est comme ça, Elisa qui vit alors ses propres drames, etc., mais qui, d'apparence, a une vie tout à fait bourgeoise et donc très aisée, passe à côté de Lenita et pourrait ne pas lui jeter un œil parce que ça ne fait pas partie de sa réalité. Il s'avère que là, Elisa accueille Lenita dans sa réalité et que Lenita accueille aussi Elisa dans la sienne, mais... Voilà, je trouvais ça intéressant de confronter ces regards.
Et il y a une scène où Elisa va faire des courses et elle prend quelques produits pour donner à Lenita. Alors Lenita elle est très contente évidemment, mais il manque quelque chose. Il manque les serviettes hygiéniques. Alors ça c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça. En tout cas quand on est un homme et quand on passe dans la rue, quand on voit une SDF et qu'on a envie de lui donner des choses pour l'aider. Ça vient pas forcément tout de suite.
Oui, et pourtant, ben en tant que femme qui a ses menstruations, je trouve que c'est une vraie question que je me pose. Comment font ces femmes? La précarité menstruelle, c'est vraiment quelque chose dont il faut s'emparer. Alors il y a des associations qui font un super boulot. Par exemple, je pense à Féminité sans abri que je suis sur les réseaux, qui propose aux gens donc d'amener dans certains points de collecte des serviettes hygiéniques, des gels douches, toutes des sacs en fait à redistribuer ensuite aux femmes en situation de précarité.
Ouais, il y a tout un ensemble de questions de société extrêmement pratiques hein, que vous traitez d'ailleurs d'un bout à l'autre de ce roman, toujours de façon très j'allais dire presque discrète. Au détour d'un paragraphe, mais c'est vrai que je pense que ça peut résonner effectivement dans la tête des lecteurs et des lectrices. Tout le monde pense que la rue, c'est ça qui vous fait plonger, mais c'est faux. Ce qui fait surtout plonger, c'est la naissance, dit Lenita. Tu nais et tu plonges en fonction de qui tu es.
Oui, je crois que Lenita, elle pose la question du déterminisme social, en fait. Et que elle n'a pas eu toutes les mêmes chances à la naissance, finalement. Principalement économique, sociale aussi. Sa mère était une femme alcoolique qui s'occupait pas beaucoup d'elle. Et pourtant, Lenita était quelqu'un de doué dans les études, on le voit, elle en parle. Et elle a fait à un moment des mauvaises rencontres et il y avait personne pour la repêcher.
Et vous utilisez très souvent, hein, pour Lenita, mais aussi pour d'autres, ce fameux style indirect libre, oui. Ce qui fait que chaque personnage a un ton particulier hein, d'un chapitre à l'autre. Ce style indirect libre, c'est pourquoi? C'est rendre le personnage plus vivant ou c'est pour accroître l'empathie ou pour provoquer l'empathie du lecteur pour le personnage?
Alors je sais pas s'il y avait une intention de provoquer chez le lecteur. Bon, parce qu'à la base quand j'ai écrit le livre, moi je savais même pas qu'il allait être lu par quelqu'un d'autre que moi, donc en fait j'avais pas une intention particulière. Je voulais vraiment que ce soit une immersion avec le personnage, qu'on rentre pendant ces quelques heures ou quelques jours vraiment dans sa peau, dans son regard, dans ses ressentis. Tout à l'heure, vous disiez que ce sont des problématiques très discrètes que j'aborde, mais parce qu'en fait, comme on a le regard de la personne qui est en train de les vivre, je les inscris en fait dans leur quotidien. Voilà, Lenita, le fait de pas avoir de serviette hygiénique, bon bah oui, c'est un drame, mais elle, c'est son quotidien. Donc en fait, elle en parle comme elle parlerait d'autre chose.
Le truc c'est qu'elle est plus jolie et ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique elle ment. Car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. À wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Le truc c'est qu'elle donne pas envie. Et ça, ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, de toute façon moi je suis mieux qu'elle. Après elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer. Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller. Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Oh, finally. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I wish I'd be like you.
Victime des réseaux, Angèle dans VMDN sur RFI avec la primo-romancière Emma de Ruffy qui publie La femme que nous sommes aux éditions Flammarion, un livre que vous allez pouvoir gagner, d'ailleurs vous qui nous écoutez en répondant à la question que je vous poserai tout à l'heure. Et une victime des réseaux, eh bien il y en a une dans votre livre, c'est Jeanne, c'est la fille d'Eugénie, cette vieille dame de 84 ans qui est, je le rappelle, la patiente préférée de votre kinésithérapeute Elisa. Alors Jeanne, elle est youtubeuse, elle est influenceuse et elle est tombée en quelque sorte dans le piège de la célébrité sur Internet en s'attirant la foudre des haters, comme on dit. Je laisse le lecteur découvrir dans quelles circonstances. Vous, Emma de Ruffy, qui êtes de cette génération réseaux sociaux, vous vous en méfiez comme de la peste?
Non. C'est parce que, en fait, ce que Jeanne, son propos, c'est à la fois sur ses réseaux qui peuvent être un piège, mais qui lui donne quand même une plateforme énorme. Donc, en fait,
elle est célèbre.
Comme dans tous les réseaux.
Elle partage énormément de choses.
C'est ce qu'on en fait. Il y a des dérives, on le voit bien. Bon, Jeanne tombe dans le piège de ces dérives-là. Mais Jeanne, elle pose surtout une question qui est sur le culte de l'apparence, le culte de l'image, l'obsession de la beauté, qui est complètement accentuée par son métier, qui est un métier d'image.
Oui, donc la dictature de la minceur, la dictature de la beauté physique, elle s'est faite refaire le nez, je crois.
Refaire le nez, beaucoup d'injections, des choses qui sont donc extrêmement aujourd'hui répandues, courantes. Mais en fait, c'est pas ça tant qui pose question. C'est plutôt qu'en fait, Jeanne se sentait très mal dans sa peau parce qu'elle vit dans une société, et notamment comme elle s'affiche sur les réseaux, qui la juge énormément sur son apparence. Elle reçoit énormément d'injonctions à la beauté en tant que femme et en tant que youtubeuse et influenceuse. Et ces injonctions, elle a décidé de les embrasser. En fait, elle en est devenue victime, mais une victime presque convaincue. Pour exister, elle doit ressembler à ça ou à ça. Et en fait, elle se rend compte que même en y répondant, elle n'est pas gagnante parce qu'on va toujours la ramener à son physique et la critiquer de ne pas être naturelle et d'avoir répondu à ces injonctions-là.
Et ce vécu-là, aussi bien en tant que youtubeuse ou en tant que jeune femme née dans cette société avec ces injonctions-là, sa grand-mère, elle n'est pas du tout sur le même créneau, elle, pour le coup. Elles sont très très éloignées l'une de l'autre, puisque Eugénie, elle se sent libre, écrivez-vous, car les contraintes de la beauté se sont évaporées, en quelque sorte, grâce à son âge. Ça veut dire que l'âge, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de complètement discriminant dans le vécu d'une femme par rapport à son image physique, pour la société dans laquelle nous vivons.
J'imagine, oui, on voit bien déjà, alors il y a ce qu'on appelle le jeunisme, où les femmes jeunes sont portées au nu, on sexualise énormément la jeunesse, à partir d'une certaine date, on considérait que les femmes à 50 ans, par exemple, ne seraient plus désirables, etc. Eugénie en parle un petit peu, elle l'a mal vécu à un moment, l'effondrement de ce que, du regard des autres dans ce qu'on considère comme beau ou désirable. Et puis en fait, elle s'en est échappée finalement. Elle a dit très bien, je suis plus belle, mais en fait finalement, est-ce que c'est pas une forme de liberté pour moi?
Et Jeanne, effectivement, dit ceci. Et je voudrais que vous commentiez cette phrase, parce que c'est une phrase que j'ai trouvée très, très très forte et qu'on peut peut-être effectivement considérer comme une sorte de résumé finalement du message du livre. Exister en tant que femme, c'est exister avec des combats que nous n'avons pas choisis. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase, Emma de Ruffy?
Bah parce que en fait, Jeanne, elle se rend bien compte que elle est arrivée là. Elle, les choix qu'elle a faits ont été avant tout dictés par le fait de être une femme. Il faut être jolie. Elle a l'impression que pour exister, il faut être belle. C'est ce qu'on renvoie. Une femme doit être belle avant toute chose. Et après, elle aura le droit d'être autre chose. Et encore. Et en fait, elle a pas choisi tout ça. Elle a pas choisi que pèse sur elle ce sexisme, cette misogynie là. Et en fait, elle se rend compte qu'à un moment, soit elle se révolte, soit elle continue d'embrasser comme ça ces injonctions-là, mais elle en souffre quand même.
Mais ça veut dire qu'elle ne l'a pas choisi. Ça veut dire qu'être une femme dans la société contemporaine, pour vous, c'est ne pas être libre ?
Alors bon, déjà c'est le personnage de Jeanne qui parle.
Bien sûr,
moi
bien sûr.
Me positionne pas.
Mais c'est pas la seule qui est sur ce cadre-là.
C'est pas
sur.
Alors c'est pas être libre. Je pense que ça dépend encore une fois de qui on est, des moyens qu'on a. Je veux dire, même parmi les femmes, voilà, c'est pas naître femme qui nous fait naître non libre, etc. Mais par contre, oui, pèse sur les femmes beaucoup de violence, beaucoup d'injonctions et oui, c'est une forme d'enfermement, oui, donc de privation de liberté. Mais après, voilà, Jeanne. A quand même aussi beaucoup de privilèges.
Alors il y a une autre femme du livre qui a beaucoup souffert de ces injonctions, de cette dictature de l'apparence, c'est Gabrielle. Gabrielle, c'est la meilleure amie d'Elisa. Elles se sont rencontrées quand elles étaient étudiantes à la fac. C'est une de ces jeunes femmes lumineuses et belles, tellement belles que tous les hommes regardent. Alors on pourrait penser qu'elle a de la chance, même si parfois elle en joue, c'est quand même pour elle, d'abord une source de souffrance. Nous sommes à la page 141 du livre.
Les clients la regardaient toujours avec insistance. Ils grimaçaient ce qui leur semblait être une charmante œillade séductrice, même lorsque, au comble de ce qui aurait dû représenter un moment de réserve et surtout d'effacement de leur part, elle leur apportait leur crème contre les hémorroïdes. Elle remarquait les airs libidineux et possessifs qu'il posait sur elle, mais faisait mine de ne pas les voir. Elle enrageait d'être sans cesse exposée, sans cesse sexualisée et désirée par tous ces hommes qui la rebutaient. Elle avait compris très jeune, dès l'âge de 12 ans, quand son oncle, d'un geste infâme, lui avait touché la poitrine pour voir si elle se développait normalement, que son corps ne lui appartenait pas vraiment. Elle appartenait au désir des hommes, au désir des forts et des puissants, et elle les haïssait. Une colère sourde la rongeait à l'acide en permanence. Et bien que d'apparence charmante, elle n'était, depuis ce jour, que rage. Adulte, elle comprenait que des hommes puissent la désirer, mais elle s'indignait que la plupart d'entre eux s'imaginent détenir sur la beauté un droit de jouissance. Comme si leur existence justifiait le droit de disposer de tout, tout le temps. Repenser à son oncle la dégoûtait. Pour ne pas céder à sa grande tentatrice qu'était la colère, elle s'enferma dans ses souvenirs. Elle avait la tête à mille lieues de là en recherchant frénétiquement le déroxète d'une cliente. Elle se rappelait la superbe femme avec qui elle avait passé la nuit. Les femmes avaient une saveur très différente de celle des hommes. Leurs baisers, pour commencer, n'avaient aucun pareil. Ils étaient plus tendres et pourtant plus bruts aussi. Les femmes agissaient moins comme propriétaires des corps qui s'offraient à elles.
Emma de Ruchy, je vais essayer quand même de défendre un tout petit peu la vente masculine. Est-ce que Gabrielle ne généralise pas un petit peu ? Aussi bien quand elle dit les hommes que quand elle dit les femmes d'ailleurs.
Bien sûr. Si, Gabrielle, c'est une personne sans concession. Et en fait, alors on l'adore parce que c'est un personnage lumineux. Mais elle a ses défauts, elle a ses travers. Et Gabrielle est pleine de colère et ne connaît pas la nuance en fait. C'est tout le personnage, il est comme ça. Donc c'est dans ses meilleurs côtés comme dans ses plus mauvais. Et oui, elle généralise parce que elle prend donc ses expériences et elle en fait une généralité, effectivement.
Et elle s'en sort finalement avec ce côté très extraverti, ce côté totalement libre qu'elle assume d'ailleurs pleinement, ce qui est pas facile pour elle.
Elle se réapproprie en fait cette beauté parce que quand même elle se fait quand même attoucher sexuellement par son oncle quand elle a 12 ans. Très vite, elle se rend compte qu'elle est sexualisée, qu'on la considère comme étant très belle, mais que cette beauté n'est pas à elle. C'est un peu aussi la problématique de Jeanne. Elles ont eu deux manières de se réapproprier qui elles sont. Jeanne en répondant aux injonctions et Gabrielle en disant mais en fait cette beauté elle va m'appartenir et je vais vous interdire de considérer que vous avez un droit dessus. Un droit de regard. Et là-dessus, elle est très juste quand même, de dire qu'on n'est pas beau pour l'autre, enfin pour les autres, que les autres n'ont pas à exiger de nous de la beauté.
Voilà, Gabrielle qui est aussi quelqu'un de très intuitif, hein, puisqu'elle a perçu le malaise d'Elisa. Elle sait pas exactement d'où il vient, mais bon, elle n'aime pas non plus trop Loïc, hein, le mari de son amie. Elle a compris qu'Elisa fuyait depuis quelque temps les rendez-vous avec son cercle d'amis, parce qu'il y a une petite bande d'amis, hein, comme ça, qui s'est constituée au fil des années. Et parmi ces filles, hein, c'est vraiment une bande de filles, il y a Elisa, il y a Gabrielle, il y a quelques autres, et puis il y a Nola. Nola, à qui vous consacrez aussi un chapitre, Emma de Ruchy. Alors Nola, elle est un peu jalouse de Gabrielle, un peu jalouse de sa beauté. Elle a un peu l'impression que Gabrielle, c'est le centre du monde, et elle voudrait un petit peu exister vis-à-vis d'elle. Alors elle est jalouse, et donc elle n'a pas vraiment le beau rôle, et pourtant je trouve que c'est un personnage extrêmement touchant. Est-ce que vous avez un peu, voire beaucoup de sympathie pour Nola?
Oui, je l'aime beaucoup. C'est le personnage que je trouve le plus... presque un peu le plus authentique, parce qu'en fait, dans ces pages-là, on voit le pire d'elle, c'est-à-dire tout ce que on ne veut pas montrer aux autres, la jalousie qui des fois peut nous attaquer, l'envie, la détestation de sa propre vie, de son propre destin. Elle est pas du tout bien dans ses baskets, Nola. Et en fait, elle s'en sort, elle fait ce qu'elle peut, comme elle peut, avec ce qu'elle a. Alors, elle est pas très sympathique. Non. C'est pas une personne qui, même si elle vivait heureuse, serait extrêmement sympathique. Elle n'est pas très sororale, voilà. Mais elle est touchante quand même, parce que elle est tellement mal, en fait, tellement malheureuse.
Elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime en permanence, voilà. Elle a besoin d'être rassurée. Il y a un mot qui revient très souvent d'ailleurs quand vous évoquez Nola, c'est le mot validation. On a l'impression qu'il faut mettre un tampon, quoi, sur sa vie. Il faut valider ce qu'elle pense, valider ce qu'elle est.
Elle se soit, il y a une faille narcissique énorme qui a besoin d'être comblée. Elle a besoin de se sentir aimée par au moins une personne de façon privilégiée, en fait.
Il y a un mot que vous venez d'employer, c'est le mot sororal, Emma de Ruchy. Est-ce que vous croyez à la sororité ou pas du tout?
Oui. Enfin, en tout cas, dans mon expérience de vie, oui, j'y crois. J'y crois. Je pense que ça existe et que c'est un bienfait incroyable.
Mais elle se bâtit sur quoi, cette sororité?
Eh ben, sur des expériences, de femmes qu'on aurait en commun. Et même quand on a des vies très différentes entre femmes, c'est juste se dire des rencontres, des fois comme ça, des gens qui nous accompagnent toute notre vie, ou même des fois pendant un petit moment de nos vies, et qui nous soutiennent, qui nous poussent, quoi.
Parce que d'autres disent au contraire que quand il y a plusieurs filles dans un même milieu, elles se jalousent, elles se critiquent, c'est compliqué dans la vie d'avoir une boss féminine quand on est une femme dans une entreprise, etc. C'est pas un constat que vous partagez?
Je l'ai vécu, oui, bien sûr. Il faut pas faire d'angélisme, bien sûr que des fois les femmes envers une femme, envers une autre femme, peut être absolument, méchante et.
Mais ni plus ni moins que les hommes entre eux.
Mais je pense que ça prend des formes vraiment différentes. Mais en tout cas, pour être une personne qui a beaucoup d'amis femmes et qui est entourée d'énormément de femmes dans sa vie, eh bien moi, ça reste les personnes qui sont les plus grands bienfaits de mon existence. Donc je suis il y a aussi beaucoup d'hommes, hein, que j'aime énormément, évidemment. Mais je sais pas, cette question dans le milieu, par exemple, du travail, ou quand il y a beaucoup de femmes, oui, peut-être que ça, il y a une sorte de réalité, mais je pense que c'est très cliché, en fait.
Alors, il y a quelques autres personnages féminins qui gravitent autour d'Elisa, et tout en droit à leur chapitre. On va pas évoquer en détail tout le monde. Il y a Cécile, qui est la sœur aînée d'Elisa, qui est une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts. Il y a Lucie, qui est la petite fille d'Elisa et de Loïc. Il y a Annie, qui est la nounou qui s'occupe de Lucie. Il y a la mère d'Elisa aussi, la belle-mère d'Elisa, qui s'appelle Linda. Tous ces personnages féminins, Emma de Ruchy, est-ce que ils sont une partie de la femme que vous êtes, pour paraphraser le titre de ce roman?
Je pense qu'on peut prendre dans chacune des petites choses, forcément, où j'ai déversé un petit peu d'émotions que je me suis appropriées, de vécu, parfois des petites expériences, des micro-expériences. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'en lisant, les personnes peuvent se dire « Tiens, ça pourrait être un peu moi. »
Mais comment est-ce que vous avez construit ce cœur, C-H-O-E dans le U-R, évidemment, ce cœur, ce roman choral de femmes? Est-ce que vous avez voulu mettre au point une sorte de palette de la féminité à tous les âges, à tous les milieux?
Non, en fait, c'était vraiment... Je suis partie d'Elisa et je me suis dit, tiens, qui gravite autour d'elle? Donc, en fait, on voit bien quand même dans les milieux, elle est quand même beaucoup entourée par un milieu assez bourgeois, finalement, que ce soit sa meilleure amie, même sa belle-mère, Eugénie Marteau, Jeanne, enfin, voilà. Il y a vraiment que Lénita, Cécile et Annie, la garde d'enfants qui ne sont pas d'un milieu bourgeois. Et donc, en fait, c'était juste développer toutes ces personnes qui l'entourent. Et voilà, quelles sont leurs vies, quels sont leurs quotidiens. Il n'y avait pas de volonté de développer, comme ça, de montrer ce que seraient toutes les femmes, parce qu'en fait, je n'aurais jamais cette prétention. Il y a des milliards de façons d'être et d'être une femme et d'incarner ce qu'on a envie d'incarner en tant que femme. Donc, non, c'est juste là un tout petit micro-échantillon de destin, de vie.
Mais vous avez fait des fiches pour chacun des
oui.
personnages
oui,
avec
oui.
leur psychologie, leur parcours, leur pédigré.
Oui, leur avant qui n'est pas écrit et même leur après. Voilà, je sais ce qui se passe pour chacune. Ouais, tout a été dans des carnets.
D'accord. Et au fur et à mesure de l'écriture, est-ce que ces personnages parfois vous ont eux-mêmes surpris? Est-ce que vous les avez modifiés? Est-ce que vous avez voulu justement leur faire prendre des chemins que vous n'avez pas forcément prévus pour elles?
Oui, beaucoup. Surtout dans le travail de réécriture, notamment avec la maison d'édition, sur Jeanne, qui a été assez modifiée parce qu'elle prenait beaucoup de place par rapport à ce qu'elle aurait dû vis-à-vis de sa place dans le récit. Donc voilà, j'ai dû beaucoup modifier. Bon, sinon, les autres, non, pas tant. Mais en fait, le vrai changement, c'est entre l'histoire qu'on imagine et celle qu'on pose sur papier. Ça, j'en ai fait l'expérience, vu que c'est mon premier roman, pour la première fois. Il y a un monde, en fait, entre l'histoire qu'on imaginait, qu'on fantasmait un petit peu, qu'on avait envie d'écrire, et celle qui finit par être écrite.
Alors, on a beaucoup parlé des personnages féminins, Emma de Ruchy. Il y a aussi quelques personnages masculins. Il y a Loïc, le mari, on a déjà un petit peu évoqué, on n'en sait finalement pas grand-chose. Et puis il y a Marc, c'est le collègue beau et sympa, hein, celui qui fait tourner quelques têtes, mais sans en profiter. Il y a aussi Cédric, hein, le mari de Cécile, qui est la petite sœur d'Elisa. Et tous les trois, finalement, sont des personnages que l'on croise à peine, quoi. Vraiment, même Loïc, hein, il est à peine esquissé. Vous n'avez pas été tenté de creuser davantage, d'accorder plus de place aux personnages masculins?
Bah non, ça c'était vraiment un choix narratif, je voulais me concentrer sur les personnages féminins, il y en a déjà beaucoup, j'avais envie de me concentrer sur leur regard, donc c'est vrai que tous les hommes sont un petit peu en périphérie, même Albert, le père de Cécile et Elisa, ou Amine, le mari d'Anissa, enfin voilà, c'est des personnages qui sont là, mais non, j'avais pas envie de les développer justement, j'avais vraiment envie de me concentrer sur ces regards de femmes.
Alors quand on publie un premier roman, il y a deux questions qui viennent tout de suite à l'esprit, qu'est-ce que vous avez ressenti quand la première fois vous avez eu votre livre entre les mains ou quand vous l'avez vu dans les rayons d'une librairie?
Alors, je l'ai d'abord eu entre les mains quelques semaines avant qu'il sorte. Donc là, c'est une sensation très étrange. Déjà, on prend pas tout de suite conscience. On a presque l'impression que c'est pas nous. Enfin voilà, même là, quand je le vois, je suis un petit peu détachée. Je me dis, c'est incroyable. Et puis des fois, comme ça, on y pense. On se dit, ah, c'est quand même vraiment bien ce qui est en train de se passer. Et puis après, le voir en librairie, pareil, ça fait vraiment battre le cœur, quoi. C'est très bien.
Mais vous vivez comme un aboutissement ou comme le début de quelque chose de nouveau?
Le début de quelque chose de nouveau, j'espère en tout cas.
Donc la question suivante, elle est évidente, vous avez commencé le deuxième?
Il est dans ma tête, justement, avant d'être mis sur papier et du coup de plus ressembler à ce à quoi je suis en train de penser.
Et il y aura un rapprochement à faire entre les deux ou vous allez
pas
vous
du tout. Là, en tout cas, je suis partie vraiment sur quelque chose de très très différent.
Merci beaucoup Emma de Ruchy. Ce premier roman, il s'appelle donc La femme que nous sommes. Il est paru chez Flammarion, un livre que vous allez pouvoir gagner, vous qui nous écoutez, en répondant à la question du jour. Comment s'appelle le chien de Lénita? On en a parlé tout à l'heure. Répondez comme d'habitude en message privé à partir de la page Facebook de l'émission. Juliette Guéguin attend vos bonnes réponses. Et bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Emma de Ruchy.
Amazing Blues, extrait de son nouvel album solo Good For You. Alors d'où vient-il ce chanteur Alain?
Jean-François Slim Paul, chanteur et guitariste de blues français qui, à ma connaissance, ne se sent pas si mal dans sa peau, s'est fait remarquer avec le groupe Scarecrow, puis il a publié son premier album qu'il estimait très brut et il voulait du coup être un peu plus moderne avec le deuxième. Slim Paul avait envie d'entendre de belles guitares très aériennes sur des batteries très puissantes et des basses bien rondes et bien lourdes. Et même si l'écriture et l'ambiance des chansons restent assez anciennes, des années 50 aux années 70, il souhaitait un traitement des éléments et un mixage plus 2020.
Et quand a-t-il écrit ses nouvelles compositions ?
Alors, ces chansons ont été composées récemment ou bien il y a très longtemps. Slim Paul est allé rechercher dans ses carnets de vieux morceaux oubliés et il a été surpris car il collait parfaitement avec ce qu'il avait envie de dire. Pourquoi, par exemple, aurait-il pu signer récemment le texte de Good Is Gonna Come ?
Excellent exemple. Good Is Gonna Come, eh bien, arrive, c'est un peu du petit anglais, mais ce qui est génial, c'est que j'ai fini l'enregistrement de cet album, je crois, 2 semaines avant le premier confinement. Et on a sorti l'album 1 an après, parce qu'il y a eu du retard, machin. Il est sorti en février 2021. C'était le premier nom de code de l'album, d'ailleurs, Good Is Gonna Come. Le message de ce morceau, c'est « Tiens bon, t'en as assez chié, ça va, il y a des choses positives qui vont arriver si tu tiens bon, quoi. » J'aurais pu l'écrire, effectivement, aujourd'hui. You've been
waiting too long for that Good Is Gonna Come, Slim Paul sur RFI.
Le 19 février dernier, pour fêter l'anniversaire d'une semaine de la sortie de ce nouvel album Good For You, Slim Paul nous laissait entrer dans les coulisses de la création de sa chanson Dear Neighbor. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ce petit film, il nous conte cette conception avec cette version qui se rapproche plus de la version que son public verra en concert que celle de l'album.
Dear Neighbor, ça fait partie des morceaux qui étaient dans les cartons que j'ai retrouvés, c'est un vieux morceau. Et le concept fait par Jérémy Dune, c'est d'aller retrouver des artistes et de les filmer de la création du morceau jusqu'à l'enregistrement et le mixage et compagnie. Moi, j'ai choisi ce morceau-là parce qu'il était déjà fait, mais c'est vrai que mes musiciens, Jamo et Manu, ne connaissaient pas ce morceau, donc il est venu nous filmer pendant que moi, je leur racontais l'histoire du morceau. Qu'est-ce que nous, on allait faire avec ce vieux titre, comment on allait le redonner un nouveau souffle, une nouvelle vie. C'est vrai que sur l'album, par rapport à l'entièreté de l'album, cette version-là était moins intéressante. Du coup, j'en ai fait une tout seul, en fait. Juste guitare, il y a plusieurs guitares. Je tape du pied aussi, en guise de grosse caisse. Mais effectivement, cette version-là, du documentaire, est celle que vous verrez en live.
Slim Paul, Dear Neighbor, il y a du vécu apparemment dans ce qu'il écrit.
Oui, mais il n'est pas forcément engagé, ça ne l'intéresse pas vraiment. Mais quand quelque chose le rend fou, le touche, il essaie d'en parler, les laisser pour compte, la pauvreté. Il a par exemple une chanson sur ceux qui ont tout, qui ont le pouvoir et qui font tout pour le garder. Pour lui, ce n'est pas être engagé, c'est avoir les yeux ouverts. Il est un peu un témoin de ce que vit sa génération, les gens autour de lui. Slim Paul parle de ses histoires qui ne sont pas plus exceptionnelles que celles des autres. Quand il évoque les chagrins d'amour, il décrit les siens, mais il tente de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Voilà pour les textes, mais comment lui viennent les mélodies?
J'écoute beaucoup de musique et j'écoute beaucoup de choses différentes. J'écoute peu la musique que je fais, en fait. Pas la musique que je fais moi, parce que je suis un peu obligé d'écouter quand on travaille le mix et tout ça, le master et tout ça. Mais j'écoute peu la musique de mes pères, on va dire. Par exemple, en ce moment, je suis beaucoup sur la musique africaine, Afrique centrale, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin. Je vois que sur mes dernières compositions, ça ressort un peu. J'ai eu une période, il y a quelques mois, je sais pas pourquoi, j'étais reparti sur Mozart, je me suis enfermé sur Mozart. J'avais halluciné parce que moi j'ai aucune éducation classique et j'avais pété un câble sur Mozart. Donc j'ai pas fait du Mozart, mais j'ai ressenti dans mes guitares, en fait, que ça avait été digéré dans mon cerveau, en fait. Ça vient par mes influences, en fait, forcément.
Et dites-nous, voilà, comment a été confectionné ce disque?
Alors, dans cet opus, Slim Paul a souvent utilisé de vieux instruments, Jean-François, qu'il a mixé d'une manière moderne, comme sur Bury Me Deep, avec sa vieille batterie qu'il a métamorphosée. L'idée du son est venue au fur et à mesure des titres. Par exemple, il a toujours su que Keep On Grooving ouvrirait l'album, car il avait le désir d'une grosse intro avec beaucoup de cœur, très aérien, et surprendre d'un coup avec une batterie moderne entre hip-hop et breakbeat. Quand cette batterie rentre, on rentre vraiment dans l'album et son concept musical. C'est ce que remarque celui qui se produira le 7 juillet au Bikini à Toulouse. Il faut vite d'ailleurs réserver sa place. Mais sa mère a-t-elle pu avoir la sienne?
Ma mère a pris sa place, je pense, une demi-heure après la mise en vente des places, ouais. C'est vrai que c'est un bikini particulier, parce que c'est un bikini assis, c'est un bikini qui sera masqué, donc ce ne sera pas un bikini comme d'habitude à plus de 1500 places, ce sera un bikini à moins de 400. Je pense que ça va partir vite, j'invite les gens qui veulent me voir à pas trop tarder, en effet. I'm a dog. In the
log cabin, I'm dying. Log Dog Blues sur Good For You, album sorti chez Regards Old Pot Records, l'autre distribution. Slim Paul qui sera ce vendredi en concert au festival Somme Imaginaire de Sommières dans le Gard, au Bikini à Toulouse, vous l'avez dit Alain, le 7 juillet, le 8 à Fontgrave, toujours dans le sud-ouest de la France, le 10 à l'Essentiel Festival de Toulouse et le 25 juillet en solo, cette fois aux Flâneries, toujours dans la Ville Rose. Et la tournée se poursuit jusqu'au 27 novembre. Voilà, c'est dit. Merci Alain. Merci également à France Bleu Pays Basque qui vous a accueilli aujourd'hui. Dans un instant, le journal. On se retrouve demain avec l'auteur de BD Charles Berberian pour son album Les Amants de Shamat, la véritable histoire de Gilgamesh, paru aux éditions Futuropolis en collaboration avec le musée du Louvre. Et vous m'en direz des nouvelles.
My dog's house has burned this morning. The last bone at least has been buried. Ooh, nothing left me. Ooh, I said nothing. My love, take me under your wing. So lonely, lonely, lonely. Love, dog, poor and mad. Take me, take me, take me away. Everything gone bad. So lonely, lonely, lonely. Love, dog, poor and mad. Take me, take me, take me away. Everything gone bad.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
Everything has gone bad. Has gone bad. Has gone bad.